Bonjour Zoé Fouquet-Kerboise.
Bonjour.
Alors vous êtes membre du groupe local de Greenpeace à Angers, avec les crues historiques qu'a connues et connaît encore à l'heure actuelle le Maine-et-Loire. Vous souhaitiez ouvrir le débat sur le lien avec le réchauffement climatique, mais aussi sur la prise en charge financière de ces catastrophes. Dans cette interview, nous allons revenir sur ces thématiques, bien évidemment, de manière assez simple. Qui dit monde plus chaud dit évaporation accrue, dit tempête et pluies plus nombreuses et abondantes, et donc plus d'inondations, des crues qui sont appelées à devenir de plus en plus fréquentes dans le Maine-et-Loire. C'est bien cela?
Alors, tout à fait. Il est globalement, à cause du réchauffement climatique, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle d'événements climatiques extrêmes, dont des inondations. Donc, mais c'est aussi les cyclones, les incendies, les sécheresses, les canicules. Tous ces événements, qui sont bien évidemment des événements naturels qui ont toujours existé, sont amenés à être plus probables, donc c'est-à-dire plus fréquents, mais aussi plus intenses. Voilà, donc des crues, on en a toujours connu dans le Maine-et-Loire, que ce soit avec la Maine ou la Loire. Mais avec le réchauffement climatique, on est amené à avoir des crues plus importantes et potentiellement plus fréquentes. Voilà, de la même façon qu'on a plus de canicules et plus de sécheresses.
Alors, en termes de grandes crues qu'on a eues dans le Maine-et-Loire, la dernière c'était 95, c'était il y a 30 ans. Donc c'est des phénomènes presque d'une vie en fait, ou d'un tiers, d'un quart de vie. Est-ce qu'on sait aujourd'hui si jamais ces phénomènes vont devenir de plus en plus fréquents et si jamais ça va devenir des phénomènes quotidiens plus que des phénomènes d'une vie comme c'est le cas actuellement?
Alors non, en tout cas moi je n'ai pas de chiffres à ma disposition. Il y a un organisme national, international pardon, qui cherche effectivement la probabilité de chaque augmentation de risque qui s'appelle le World Weather Attribution. Voilà, c'est un réseau de scientifiques internationaux qui pour chaque événement climatique extrême qui se passe essaye de voir la probabilité de ce risque-là, si effectivement c'est lié au réchauffement climatique. Mais on ne fait pas forcément de projection. En tout cas, il est difficile de faire des projections sur le nombre ou l'intensité des inondations. Mais a priori, voilà, pour chaque événement climatique extrême, celui-ci sera plus fréquent et plus intense. Voilà. Après, sur les il y a aussi les moyens mis en œuvre, en fait, pour limiter ces risques-là. Donc, par exemple, pour les crues de la Loire, il y a eu des barrages qui ont été mis, il y a eu des fortifications qui ont été faites pour limiter au maximum les crues. On a des pompes, etc., ce qu'on n'avait pas il y a peut-être 100 ans. Voilà. Donc on met des choses en place, mais malheureusement, elles ne suffiront pas pour régler tous les problèmes.
Alors pour ces crues en particulier, on peut parler de lien direct avec le réchauffement climatique?
Alors, pour les crues, il y a voilà, le phénomène d'attribution n'a pas été d'attrition, en tout cas n'a pas été validé. C'est surtout les pluies torrentielles qui vont être surtout liées à ça. Voilà, en tout cas c'est là où le World, comme je vous disais là, le World Weather Attribution, qui met en place, qui met un lien surtout avec les... Oh, je suis désolée, j'arrête pas de bégayer, ça va pas du tout.
Si vous avez besoin d'un temps, ou voilà, n'hésitez pas, hein, vous inquiétez pas.
Excusez-moi, est-ce qu'on peut recommencer cette partie?
Ouais, bien sûr, pas de soucis, donc je vous repose la question.
Oui, je veux bien, s'il vous plaît, excusez-moi.
Si vous avez besoin d'un temps de pause, il n'y a aucun souci, hein.
Non, ça va, ça va, ça va le faire. C'est juste, est-ce que là, vous m'entendez bien ou pas? Parce que j'ai fini par sortir la vue.
Oui, je vous entends parfaitement, donc vous inquiétez pas.
Pour chaque événement climatique extrême, le World Weather Attribution essaye de faire un lien de causalité, mais ça reste, en fait, cet événement est, par exemple, 30 fois plus probable du fait du réchauffement climatique. Pour les crues, c'est un petit peu plus difficile. Ce qui est surtout lié au réchauffement climatique, ça va être le fait d'avoir une pluie torrentielle. Voilà, avoir des pluies très abondantes, plus abondantes que d'habitude, qui du coup engendrent les crues. Mais voilà, c'est plus sur cette partie de pluie abondante, plus abondante qu'habituellement, qu'on va pouvoir mettre un lien avec le réchauffement climatique.
Alors, on parle de réchauffement climatique hein, depuis tout à l'heure, mais il y a aussi l'urbanisation, des lieux qui n'auraient pas dû être investis par l'homme et qui se retrouvent logiquement sous l'eau. Ça aussi, c'est un danger supplémentaire durant ces crues.
Oui, complètement. Ça, c'est vrai que ça a un impact énorme, notamment le fait de construire en zone inondable, par exemple, ce qui me paraît en tout cas assez aberrant aujourd'hui, mais il y a encore des constructions qui se font, Greenpeace a fait un rapport il n'y a pas très longtemps sur... Greenpeace et puis d'autres, sur justement les villes qui ont des maires qui appartiennent à des groupes d'extrême droite, ont énormément bâti sur des zones avec dans des zones inondables. Donc ça paraît vraiment aberrant aujourd'hui. Il faudrait vraiment essayer de limiter au maximum ce genre de construction. On sait bien, même s'il y a eu la politique de zéro artificialisation des sols, qu'en fait, on continue à bétonner un peu partout, malgré les lois qui sont faites. Certaines mairies se retrouvent continuer en tout cas à construire dans des zones qui ne devraient plus être constructibles. Après, pour le bâtiment ancien, ça devient plus compliqué, mais il y a certaines zones qui, malheureusement, il va falloir peut-être abandonner du fait de ces risques qui deviennent de plus en plus importants, y compris avec la montée des eaux. Des exemples un peu partout, notamment dans les Hauts-de-France, on en a beaucoup parlé, sur le manque aussi de curage, par exemple, des fossés, de curage des fleuves, le manque d'anticipation, en tout cas, de ce genre de risque et du coup de prise en compte par les politiques publiques pour faire, en tout cas, en sorte de limiter au maximum le risque. Voilà.
Alors, j'ai envie forcément de parler des petites localités, des gens qui habitent, par exemple, à Chef, ce qu'on a vu. Alors, les habitants de Béhuard, pour le coup, eux, sont plus souvent confrontés à ces crues, au moins à la montée des eaux sur l'île de Béhuard, notamment en hiver, mais quand même, ça reste des phénomènes qu'il faut encaisser. Justement, comment eux peuvent-ils se projeter, ces habitants? Comment est-ce qu'ils vont faire plus tard si jamais ces eaux continuent de monter et si jamais ces crues sont de plus en plus fréquentes?
Et bien, je pense, oui, effectivement, à Chef, où il y a eu plus de 600 personnes évacuées, là, je pense que c'est vraiment une remise en question pour eux. Parce qu'effectivement, ils savent qu'en tout cas, ils vont être probablement régulièrement inondés dans les années à venir. Ils ont été aussi inondés en 95, probablement, mais c'est des crues qui sont amenées à se répéter. Et donc pour eux, toute la question se pose de est-ce qu'on reste chez nous, est-ce qu'on adapte notre logement encore plus. Des gens disaient, par exemple, on a mis un parquet. Le parquet ne paraît pas adapté, il faudra mettre peut-être un carrelage. Mais se pose aussi la question de quitter ce village. Si les inondations sont amenées à se répéter, parce que malheureusement, même si les assurances prennent une partie en charge, bien évidemment, des dégâts occasionnés lors des inondations, parce qu'il y a, grâce à ça, il y a le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles qui se met en place. Une fois que l'État a validé le fait que c'était une catastrophe naturelle, les assurances peuvent vous dédommager d'une certaine partie des dégâts qui ont été occasionnés, mais malheureusement, les assurances peuvent aussi, au bout d'un certain temps, se désengager de certaines zones, et des zones inondables notamment. Il est probable que, à Chef, peut-être dans les années à venir, les assurances refusent de vous assurer pour ce risque-là, voire même entièrement, du fait du risque trop important d'inondation. Il y a plusieurs communes qui sont comme ça impactées par cette absence d'assurance, ce qui est vraiment dommageable pour elles. Les particuliers pourraient être amenés également à avoir des refus d'assurance s'ils sont sur des zones à trop haut risque.
Donc là, si on suit la logique de ce que vous venez de nous dire, ça veut dire que les 77 communes qui ont été reconnues comme en état de catastrophe naturelle, les 77 communes du département, j'entends là, donc du Maine-et-Loire, ces communes-là pourraient ne plus être assurées dans un futur proche face aux crues et face à ces inondations.
Oui, voilà, ça pourrait tout à fait être ça. Parce qu'en fait, le régime d'indemnisation n'est pas extensible à l'infini. Que les assurances ont beau augmenter leurs cotisations, il y a un moment où ils vont décider de certaines zones qui ne seront qui ne seront plus assurables parce que trop risqués. Voilà, si vous avez des inondations tous les 2 ans sur ces territoires, il n'est pas acceptable que votre assurance vous répare votre maison tous les 2 ans. Voilà, pareil pour des zones qui sont à fort risque d'incendie. Par exemple, si vous avez une maison très proche des forêts, dans des zones voilà, comme dans la Gironde, etc., où il y a eu énormément de feux de forêt, et bien ça pourrait être le même principe. Voilà. L'assurance pourrait décider de ne plus vous couvrir, soit uniquement pour ce risque-là, soit pour tous les risques. Voilà, vraiment un refus d'assurance habitation pour des maisons qui seraient trop à risque. Voilà. Et on voit en tout cas dans certaines zones du monde que c'est déjà le cas. Il y a certaines zones du monde, par exemple au Pakistan, où ils ont eu énormément d'inondations, il y a quasiment plus d'assurance sur ces zones-là.
Donc on peut parler de véritable aveu de faiblesse de la part des assurances.
Complètement. Et après, voilà, on voit aussi le coût exponentiel. En fait, entre 82 et 86, par exemple, on était à peu près sur 1,5 milliard par an d'indemnisation pour les catastrophes naturelles. Aujourd'hui, on est passé à 5 milliards tous les ans et c'est même encore amené à doubler d'ici 2050. Donc, il y a un moment, en fait, le régime ne peut plus suivre. Le fait de ne pas être reconnu en tant que catastrophe naturelle, c'est vraiment compliqué pour les habitants, pour les personnes voilà, qui ont vu leur maison touchée. Alors, c'est la raison pour laquelle, c'est pas difficile de dire, probablement qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Est-ce que c'est des zones qui étaient habituellement, justement, inondées et qui, du coup, le sont juste un petit peu plus que d'habitude, ou effectivement, pas suffisamment d'habitations touchées, elles étaient en limite. Voilà, ça arrive beaucoup aussi pour les personnes qui sont sujettes au problème de sécheresse avec le gonflement des argiles, voilà, qui sont rarement reconnus en tant que catastrophe naturelle, alors que finalement, ça peut détruire des immeubles entiers avec énormément de fissures et des immeubles qui deviennent impropres à la location et à l'habitation. Voilà, cette absence de reconnaissance en catastrophe naturelle pose vraiment beaucoup de problèmes. Il met des familles vraiment très en difficulté. Il y a eu pas mal de bruit autour de l'affaire du siècle. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais voilà, c'était autour de l'inaction climatique de l'État. Et à ce moment-là, il y a des sinistrés justement qui ont pris part à cette affaire du siècle, voilà, et notamment sur ces histoires de fissuration à cause de l'argile, parce que voilà, étant rarement reconnue en tant que catastrophe naturelle, les personnes se retrouvent à devoir abandonner leur logement, ne plus pouvoir le revendre, mais ils perdent leur maison, ils l'avaient acheté et ils se retrouvent avec plus rien. C'est vraiment des situations qui peuvent être dramatiques. Bien sûr, on pense aussi beaucoup aux commerçants, voilà, qui perdent énormément. Alors chaque jour de fermeture, et puis une fois qu'il faut refaire tout le stock, il faut racheter du matériel, etc. Parce que malgré le fait qu'on ait demandé de surélever, il y a un moment où on ne peut plus surélever au-delà de la surélévation, en fait. Voilà, et c'est quand on atteint des hauteurs aussi grandes, il est plus possible de protéger autant. Donc voilà, pour beaucoup, c'est un énorme manque à gagner. Dans les habitations des personnes, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont dû être évacuées. C'est toujours un moment quand même difficile. Il faut laisser son logement. Il y a un risque derrière d'actes malveillants. Voilà, il y a eu beaucoup de, notamment un chef, beaucoup de patrouilles de police pour éviter voilà, que des personnes viennent s'emparer des biens qui restaient dans les maisons, parce qu'on ne peut pas partir avec tout. Voilà, je pense que c'est vraiment un drame pour beaucoup de personnes et de familles.
Alors, on a l'impression qu'on répète tout le temps aux habitants de s'adapter. Voilà, il faut s'adapter, vous êtes dans une zone inondable, il faut s'adapter, etc. Mais finalement, on ne dit ça qu'aux habitants, et c'est peut-être ça le grand problème. Peut-être que cette petite question va permettre de répondre aussi à une autre thématique, qui est celle peut-être de la solution financière. Mais c'est vrai qu'on a des fautifs dans cette histoire, effectivement, aujourd'hui en tout cas, restent impunis, et c'est les habitants qui malheureusement doivent prendre sur eux.
Oui, et puis c'est un petit peu la double peine, je trouve ça un peu difficile de leur dire ça. Voilà, c'est des gens, des fois ils n'ont pas forcément choisi hein, de ces habitations-là, ou alors en tout cas pas choisi le fait d'être dans une zone inondable. Des fois, la vie fait qu'on se retrouve avec des logements qui sont dans ces zones-là. Et bien évidemment, même s'ils peuvent s'adapter, il y a comme je disais, voilà, on peut avoir une maison qui est au niveau d'un étage, mais des fois, quand même, l'étage est atteint. Voilà, malheureusement, on n'a pas d'autres moyens d'adaptation. Et c'est vraiment la double peine que ces personnes-là subissent avec voilà, le fait d'avoir vécu cet événement climatique extrême et de devoir parfois payer derrière et, voilà, ou abandonner sa maison, etc. C'est vraiment quelque chose de compliqué. Et voilà, et ce que Greenpeace essaye de mettre en avant, c'est qu'en fait, ces événements climatiques extrêmes, même s'ils ont toujours existé, s'ils sont plus fréquents et plus intenses, c'est bien à cause du réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique, c'est tous, voilà, est lié aux activités humaines, et notamment liées au pétrole, liées au gaz, liées à toutes les énergies fossiles qu'on utilise pour notre quotidien. Voilà, sauf que ces énergies fossiles-là, elles viennent pas de nulle part, hein, c'est les compagnies pétro-gazières qui les fournissent, et donc ces entreprises pétro-gazières correspondent à 86% en fait, des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, avec Greenpeace, on essaye vraiment de mettre le lien en évidence du fait que ces entreprises pétro-gazières elle finance en fait le réchauffement climatique en quelque sorte. Et voilà, et malgré toute leur volonté de verdir leur image, elles continuent d'investir dans le pétrole et dans les énergies fossiles, ce qui paraît aberrant aujourd'hui. Voilà, et elles engrangent des bénéfices vraiment énormes. Voilà, on en a beaucoup parlé dans les dernières années. Voilà, c'est plus de 100 milliards d'euros de bénéfices pour les 5 plus grandes compagnies pétro-gazières en 2024 dans le monde. Et juste pour Total, on est entre 10 et 15 milliards d'euros chaque année. Voilà, tous ces bénéfices continuent d'être réinvestis souvent dans le pétrole, dans le gaz, continuent de financer des projets qui sont aberrants aujourd'hui et continuent aussi d'être redistribués aux plus riches. Voilà, nous, ce qu'on demande, c'est qu'effectivement ces milliards d'euros, ces milliards de dollars soient réinvestis plutôt pour justement payer ces conséquences de ces événements climatiques extrêmes. Voilà, finalement, ça ferait un tiers de leurs bénéfices qui serviraient à couvrir l'ensemble des conséquences de ces événements climatiques extrêmes dans le monde. Et donc, on demande vraiment ça avec Greenpeace.
Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir. Vous nous avez parlé justement des entreprises qui cherchent à polir leur image. Et moi, j'aimerais revenir sur quelque chose qui permet justement à ces entreprises de polir leur image. Ce sont les différents médiums qu'il y a justement entre l'information que souhaitent porter ces entreprises et le public, la population en général. J'entends par là évidemment les médias et leur gestion justement du réchauffement climatique, qui malheureusement est de plus en plus mis de côté, va de plus en plus sur un plan second. Comment est-ce que vous voyez ça de votre œil?
Alors, on va arracher la faute sur personne, mais effectivement,
ce que j'essaie de dire ou peut-être de questionner, c'est que c'est une machine.
Voilà, c'est ça.
Les médias sont un rouage, mais un rouage qui est très proche du public.
Complètement. Voilà. En tout cas, selon les médias, effectivement, malheureusement, tous sont un peu tributaires de la publicité et des revenus des grandes entreprises pour fonctionner. Voilà, y compris les médias publics qui sont de plus en plus contraints d'accepter ce genre de rétribution et de fonctionnement. Voilà. Et malheureusement, les compagnies pétro-gazières sont dans les grandes mondes. Voilà, et on peut pas trop faire sans eux. Voilà. Donc, ça donne un lien qui peut être nocif et qui peut engendrer des prises de position qui ne sont pas forcément tout à fait justes. Ce qui fait que le plus important aujourd'hui, ce qui me paraît le plus important aujourd'hui, est effectivement le réchauffement climatique, où il faut vraiment qu'on s'en occupe. Et ça peut être mis un petit peu à mal par d'autres considérations plus financières, plus à court terme. Voilà. Les compagnies veulent vendre leur image et elles ont tout intérêt à le faire pour continuer à engranger des bénéfices, bien sûr. Et donc, elles vont continuer à dire que, on investit dans des énergies renouvelables, etc. Mais quand on regarde les faits, finalement, la part mise dans les énergies renouvelables est vraiment infime par rapport à celle qui continue à être mise dans les énergies fossiles. Voilà, et donc... Il appartient en tout cas aux médias d'essayer d'être le plus transparent possible et de ne pas relayer ce genre de fausses informations.
Et est-ce que justement le regard qu'ont porté les médias sur les différentes crues et inondations qu'on a vues en France là, mais même depuis plusieurs années, était le bon, ou en tout cas était le plus juste, parce qu'on a eu quand même un regard qui était très porté effectivement sur le présent, sur le aujourd'hui, sur les petites localités, ce qui est très important, mais on oubliait peut-être parfois de donner... une ou différentes clés pour comprendre un petit peu le pourquoi ça nous arrive maintenant, pourquoi ça nous arrive autant, pourquoi ça arrive à eux, etc.
Alors, je pense, et en tout cas, nous, dans nos posts qu'on a pu faire sur Facebook, on a eu beaucoup de commentaires justement là-dessus, sur le fait que voilà, les crues sont habituelles et qu'il n'y a aucun lien, en fait, avec le réchauffement climatique. Alors, bien évidemment, les crues sont habituelles, mais comme je vous disais, c'est la fréquence et l'intensité qui augmentent, qui vont en faire, qui font qu'elles sont, elles sont quand même liées au réchauffement climatique, et qu'il faut en parler, et que c'est aussi des moments pour parler du réchauffement climatique et d'essayer de mettre des actions, de faire des actions, en tout cas, pour limiter les risques à venir. Plus on aura... des actions fortes là-dessus, plus on pourra essayer d'endiguer un petit peu ce réchauffement et de limiter au maximum le nombre de degrés qu'on gagne régulièrement. Voilà. Donc, voilà, je pense qu'il est important, lors de ces phénomènes-là, de reparler du réchauffement climatique, voilà, pour essayer de faire bouger les politiques et d'avancer plus vite que ce qu'on fait actuellement.
En tout cas, pour pallier à ça, vous faites des actions de sensibilisation sur les crues ou différents autres types de problèmes climatiques. Justement, est-ce que vous pouvez là nous en parler un petit peu, nous dire ce que vous essayez de mettre en place sur le territoire du Maine-et-Loire ?
Oui, tout à fait. Avec la campagne climat de Greenpeace, on est régulièrement sur ces choses-là. Et pour chaque événement climatique extrême, on essaye de mettre des choses en place pour sensibiliser la population. Donc, on a fait ce qu'on appelle des photos opérationnelles au niveau des zones inondées avec certains de mes collègues que l'on a mis sur les réseaux sociaux et qu'on essaye de montrer au plus grand nombre avec les médias, etc., et avec vous aujourd'hui. Et puis, on va probablement faire aussi des actions souvent sur les samedis, voilà, pour essayer de sensibiliser la population par un tractage, voilà, en encourageant les gens à signer la pétition que nous avons actuellement, qui est du coup sur le principe des pollueurs-payeurs, voilà. De faire payer les entreprises pétrolières pour les conséquences des événements climatiques extrêmes.
Merci beaucoup, en tout cas, Zoé Fouquet-Kerbois, on rappelle donc membre de la branche locale de Greenpeace à Angers, qui est venue sur Radio G pour nous parler des différents liens entre les crues, les inondations subies par les habitants méno-ligériens et le réchauffement climatique. Merci encore d'avoir répondu positivement à l'appel de Radio G.
Merci beaucoup à vous.